Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi, une comédie à regarder dès le 26 avril sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste, Le Sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à Sur la glace, notre balado diffusion hebdomadaire qui reprend du service en ce lundi 7 janvier. C'est le retour à la vie normale après 4 ou 5 semaines pas mal mouvementées en ce qui me concerne. Le camp de sélection d'équipe Canada, le championnat du monde de hockey junior. Alors très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de Sur la glace. Qui va être une édition, je dirais, qui va être sous le signe des bilans. Bilan du championnat du monde de hockey junior, bilan de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça s'est terminé hier. 87 joueurs ont été échangés sans choix de repêchage. En fait, 87 joueurs, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a 4 qui ont été échangés deux fois. 83 joueurs qui ont changé d'équipe. Faites-le comme vous voulez, là, c'est 4 équipes qui ont été échangées. Dans le fond, c'est 4 clubs dans la Ligue, là, 4 fois 20, 80. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est souvent le cas quand la Coupe Memorial est en sol québécois. Alors, il en sera abondamment question. On va s'entretenir avec un des directeurs généraux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a été actif dans cette période de transaction-là. C'est Mario Pouliot des Huskies de Rouyn-Noranda. On va lui parler un petit peu plus tard. Il est allé chercher le plat de résistance. Mais ça, on vous l'avait annoncé sur la glace le 17 décembre dernier. Noah Dobson qui passait du Titan au Huskies en transitant quelque peu par le Saguenay et les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, on va parler avec Mario Pouliot qui a tous les éléments en main pour gagner une deuxième Coupe du Président de suite. Il l'a gagné avec le Titan d'Acadie Batters l'an passé et pourrait répéter cette année avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, on en reparle un petit peu plus tard. On va revenir également sur cette nouvelle ce matin, le congédiement de Darren Rumble comme entraîneur-chef des Wildcats de Moncton. On va faire évidemment notre chronique sur le Rocket de Laval, mais on va y aller à l'inverse. On va terminer avec le Rocket. On va parler avec Raphaël Doucet un petit peu plus tard au cours de notre diffusion. Mais pour l'instant, je pense que c'est de mise d'y aller avec le championnat mondial de hockey junior. J'ai assisté, évidemment, comme vous le savez, à cette compétition-là. La Finlande a gagné la médaille d'or. Bravo! Troisième médaille d'or en 6 ans pour les Finlandais. Est-ce qu'on peut parler d'une dynastie? Je ne crois pas. Ils ont gagné la médaille d'or en 2014, les Finlandais. Ils ont terminé 7e en 2015. Ils ont gagné la médaille d'or en 2016 avec Patrick Laine, Jesse Puljujärvi, tout ça, c'était extraordinaire. L'année d'après, à Montréal, ils sont terminés 9e. Ils ont congédié leur entraîneur en plein milieu du tournoi. Et ils ont été obligés de se battre pour demeurer dans le pool mondial. Ils ont été obligés de jouer les matchs de relégation. Ils avaient terminé dernier de leur groupe en phase préliminaire. L'an passé, 6e à Buffalo. Et cette année, 1er. Alors, quand tu regardes les 6 dernières années, 3 médailles d'or, c'est extraordinaire. Mais 3 fois, 7e, 9e et 6e. Alors, avant de penser là, qu'il faut tout copier sur le modèle finlandais, moi, j'ai mes petites réserves là-dessus. Et n'oubliez jamais une chose. Puis là, je sais, je ne veux pas passer là, mon temps à dire « si, 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 avec si on va à Paris, puis avec ça, on reste là. » On le sait, ma grand-mère le disait. Si le Canada joue un peu de chance, là, les Finlandais étaient à 46 secondes de s'en aller chez eux et de terminer 6e dans le championnat du monde de hockey junior. Et là, on dirait ouais, les Finlandais ont gagné en 2016, mais depuis ce temps-là, 9e, 6e et 6e. Alors, c'est pas ça qui est arrivé. Il y a un lancé d'un gars qui s'appelle Eli Tolvanen qui a frappé l'extérieur du filet, vous l'avez vu comme moi, et par un hasard incroyable, la rondelle est revenue directement sur son bâton, ce qui lui a permis de la, puis là je vais utiliser le mot anglais, la flipper en avant à son chum, qui a touché presque sans s'en rendre compte, puis en passant en dessous du bras de Michael DiPietro, qui avait un match extraordinaire en quart de finale. Et avec 46 secondes à faire, il y a eu une égalité qui s'est créée comme ça, 1-1, à la stupéfaction de tout le monde. On s'en va en prolongation, il y a un lancer-punition accordé. Maxime Comtois ne marque pas. Ben non, dans les lancers-punitions, là, c'est 30% le taux de réussite des joueurs, à peu près, 32%. Alors, une fois sur trois, tu marques. Deux fois sur trois, c'est le gardien qui a eu le meilleur. Et dans ce cas-ci, c'est Luukkonen qui a eu le meilleur. Quelques instants plus tard, Noah Dobson, défenseur extraordinaire qui joue une troisième période extraordinaire, particulièrement dans ce match-là, ça a été son meilleur match. Il a le filet complètement ouvert, le bâton lui casse dans les mains. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Hier, je regardais à mon retour à la maison les Bears de Chicago en fin de match, puis j'ai vu un botté de placement frapper un poteau puis une barre horizontale. C'est ça. Là. Quand ça ne marche pas pour toi, cette journée-là, ben c'est ça. Le Canada, ça ne marchait pas pour lui le 2 janvier. Puis ça n'empêche pas de dire que l'équipe n'a peut-être pas joué comme elle a été capable, qu'elle n'a peut-être pas été dirigée comme elle a été capable. Je le sais, là. J'étais là. Mais il n'en demeure pas moins que la Finlande gagne la médaille d'or avec tous ces concours de circonstances-là. Là. Parce qu'on va se dire une chose. Là. La Finlande, qui gagne le 2 janvier contre le Canada, ça lui donne un match de demi-finale contre la Suisse le 4 janvier. Est-ce que vous pensez sincèrement que la Suisse aurait battu le Canada en demi-finale? Moi, j'y crois pas. En 23 affrontements au championnat du monde, jamais la Suisse a vaincu le Canada. Et vous avez vu comment la Finlande a traversé la Suisse en demi-finale, qui était déjà très contente d'avoir battu les Suédois encore. C'était 4-0 après 7 minutes. Il y a tout lieu de penser que le Canada aurait battu la Suisse en demi-finale et se serait retrouvé en finale contre les États-Unis. Et là, comment ça se serait fini, on ne le sait pas. Mais au pire des pires, ça aurait été une médaille d'argent, une défaite contre les États-Unis en finale. Et là, personne dirait l'édition 2019, une des pires de l'histoire. Franchement, là, pensez-vous vraiment que le Canada est sixième au monde sur l'échiquier mondial du junior? Oui, il a terminé sixième cette année, là, c'est vrai. Mais le Canada ne s'est pas fait démolir 8-2 par le Kazakhstan. Là. S'est pas fait démolir 7-4 par la Slovaquie. Il a perdu 2-1 contre la Russie le 31 décembre, puis il a perdu 2-1 contre la Finlande le 2 janvier. Puis en passant, là, c'est peut-être plus le 31 décembre que ça s'est joué, ce tournoi-là, pour le Canada. Parce que si le Canada ne l'échappe pas, ce match-là, là, c'est lui qui joue contre la Slovaquie le 2 janvier au lieu des Russes. Vous avez vu comment ça a fini? Les Russes ont gagné 8-3. Alors, la ligne est mince. Puis tu sais, on est en train de se dire des fois, puis moi je dis pas ça, là, mais je sais qu'il y en a, puis j'ai lu sur les médias sociaux et tout ça, là, puis les médias sociaux, vous avez vu les ravages que ça a fait encore une fois dans le temps des fêtes. Le programme de hockey canadien, là, je dis pas qu'il faut pas se poser de questions, puis je dis pas que Tim Hunter c'est un génie, puis je dis pas qu'on n'aurait pas pu faire jouer Lafrenière un peu plus, puis Veleno un peu plus, je dis pas que c'est parfait, là. Mais quand tu regardes la Finlande, tu dis, ouais, trois médailles d'or, mais entre les médailles d'or des septièmes, des neuvièmes, des sixièmes. Ah, ouais, ils sont peut-être pas si bons que ça, dans le fond, les Finlandais. Hey, on va prendre les Suédois à la place. 48 victoires de suite. Écoutez ça, là. 48 victoires de suite dans les phases préliminaires du tournoi. Depuis 2008, 4 matchs à chaque année, pendant 12 ans. 12 fois, 4 victoires, aucune défaite, premier du groupe. Hey, là, t'es-tu en voiture là, pour t'en aller jusqu'au bout, là? Et pourtant, ils n'ont qu'une seule médaille d'or dans cet espace-là, là. Depuis les 48 match sans défaite dans la phase préliminaire. Ils ont gagné une fois en 12 ans. Puis c'était en 2012. Puis ça a pris un but d'Ibanejad en prolongation pour leur donner la victoire. Ça veut dire ça que la Suède, qui est supposément un modèle extraordinaire qu'on devrait copier, a une seule médaille d'or depuis 1981 au championnat du monde de hockey junior, c'est celle de 2012. Là, on se dit, les Russes. Ah là, les Russes, eux autres, ils l'ont l'affaire. Eux autres, ils l'ont l'affaire, les Russes. Mais non, les Russes ont gagné une médaille d'or depuis 2004. Ils ont gagné en 2011. Vous en souvenez-vous, 2011? C'était 3-0 pour le Canada après deux périodes à Buffalo. Les Russes n'ont compté 5 en troisième période. Ils ont joué la période de leur vie. S'ils ne jouent pas une période extraordinaire, ils ne gagnent pas de médaille d'or. Et là, on serait en train de se dire, « Hey, les Russes, ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas gagné de médaille d'or. Ils ne doivent pas être si bons que ça. » Pourtant, on les vénère. On dit, « Hey, ils l'ont-tu l'affaire, les Russes? » Il reste les Américains. Les Américains font des progrès, ça, faut leur donner. Les Américains, là, ils ont été sur le podium au cours des 4 derniers tournois, mais encore là, ils l'ont échappé. Là, samedi, contre les Finlandais. Puis en 2017, quand ils ont gagné à Montréal, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que c'était au terme d'une séance de tir de barrage extraordinaire? Alors, tout ça pour vous dire là, que tous ces pays-là, là, la Finlande, la Russie, la Suède, les États-Unis, le Canada, peuvent gagner à chaque année. Puis l'année prochaine, quand on va être en train de faire sur la glace ici, j'espère que ça sera toujours là, puis quand je vais partir pour le camp d'entraînement d'équipe Canada Junior 2020, On va me poser la question. Canada, c'est une bonne équipe cette année? Ont-ils une chance? Ben oui, ils ont une chance. Ils ont une chance comme la Finlande une chance, comme la Russie une chance, comme la Suède une chance. Moi, j'aimerais tellement ça que ces cinq équipes-là qu'on avait au championnat du monde, là. Finlande, Russie, Suède, États-Unis, Canada. Là. Oublions les Suisses. Là. Je sais qu'ils ont été bons, là, mais oublions-les. Là. Prenons les cinq qu'il y a là. Hey, dans un monde idéal, on leur ferait jouer une saison de 40 matchs à ces cinq équipes-là, là, l'une contre l'autre. Tu affrontes 10 fois chacune des quatre autres équipes. Là. Ça te fait une bonne saison de 40 matchs. Là. Et que ça serait du bon hockey. Puis je suis pas convaincu que le Canada terminerait 5e ou 6e dans ce genre de saison-là. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche sur un match. Ça marche sur une game. Puis la game, le 2 janvier, a pas roulé pour le Canada. Alors, médaille d'or, Finlande. Médaille d'argent, États-Unis. Médaille de bronze, Russie. 4e place, la Suisse. 5e, la Suède. 6e, le Canada. 7e, la République tchèque. 8e, la Slovaquie. 9e, le Kazakhstan. Et 10e, le Danemark, qui est relégué dans le deuxième groupe, dans le pool 1, et qui va être remplacé l'an prochain par l'Allemagne, qui a gagné le pool 1 en décembre dernier, le mois dernier. Ça veut dire que l'an prochain, en République tchèque, lieu où aura lieu le tournoi l'an prochain, le Canada va se retrouver dans un groupe avec les États-Unis, avec la Russie, pas commode, avec la République tchèque qui va être le pays hôte et avec l'Allemagne qui se joint donc au groupe mondial. Ça va être ça le groupe du Canada l'an prochain à Ostrava en République tchèque. Et ça va commencer le 26 décembre 2019. Ça va se terminer le 5 janvier 2020. Puis je suis pas mal convaincu qu'on va avoir encore un Moses de bon tournoi. L'autre chose qu'il faut se rappeler, là, quand on parle de l'équilibre qui est en train de se créer, là, les Tchèques n'ont pas été très bons cette année, mais l'an passé, ils avaient fini 4e. Les Suisses ont fini 4e cette année, ont été capables de battre la Suède, de tenir le coup contre des bonnes équipes. Il y a 8 pays différents dans la décennie 2010-2019 qui ont atteint le top 4 mondial. Les 5 grandes nations l'ont fait. La Slovaquie l'a fait, gagner une médaille de bronze à Montréal. La Suisse a terminé 4e cette année. Et la République tchèque a été là quelques fois aussi, même si elle a été décevante. La République tchèque, plus grosse déception du championnat du monde junior, c'est pas le Canada, là, c'est la République tchèque. Là. Filip Zadina, 0 majuscule dans le tournoi. Il avait marqué 7 buts l'an passé, il n'a pas marqué un but cette année, Filip Zadina. Le gros trio de joueurs de la Ligue américaine, de Martin Cott, Filip Zadina et Martin Nečas, ont été pas mal timides dans le tournoi. Puis la République tchèque, on disait, c'est peut-être la meilleure équipe de la République tchèque depuis 15 ans au tournoi. On ne l'a pas vu non plus. Puis, pensez à une chose aussi, quand je vous parlais de la Finlande, là, j'y reviens. Ils ont gagné la médaille d'or, la Finlande, sans aucun but de Eli Tolvanen. Eli Tolvanen, là, quand on a vu que les Prédateurs de Nashville le cédaient à l'équipe finlandaise junior, s'est dit « aïe aïe ». Lui, il va faire des ravages, ça va probablement être le meilleur joueur du tournoi. Pas en tout. Aucun but. La Finlande gagne la médaille d'or, aucun but d'Eli Tolvanen. Je ne dis pas qu'il n'a pas été bon, là. Il n'y a pas eu des passes. Oui, il y a eu des passes, mais... Et peut-être pour finir là-dessus, là, avant de continuer dans d'autres sujets, on n'a pas vu beaucoup Alexis Lafrenière, puis on en a beaucoup parlé ici au Québec parce que c'est un Québécois. Si le joueur de 17 ans que Tim Hunter n'avait pas utilisé outre mesure avait été un Ontarien ou un gars de l'Ouest, je pense qu'on aurait fait moins de cas. Mais évidemment, ici au Québec, on suivait beaucoup Alexis Lafrenière. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de glace. Et on ne saura jamais, malheureusement, s'il avait joué plus, si le Canada avait pu avoir un résultat différent. On ne saura pas, personne ne le sait. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que la Finlande, avec 2 minutes à jouer en finale, c'était deux gars de 17 ans qui étaient sur la glace. Lundell, Anton Lundell et Kaapo Kakko. Et c'est lui, Kaapo Kakko, qui a marqué le but gagnant de ce championnat du monde de hockey junior-là avec moins de 2 minutes à jouer. Alors, les Finlandais n'ont pas eu peur d'utiliser leurs joueurs de 17 ans. Vasily Podkolzin de la Russie a joué beaucoup. Jack Hughes des États-Unis a joué beaucoup. Alors, il y a peut-être quelque chose à retenir. Il y a peut-être une leçon à retenir là-dedans. Là, que oui, c'est un tournoi pour les 19 ans. Quelquefois, les 18 ans arrivent à se distinguer. Les 17 ans, c'est plus rare. Mais peut-être qu'effectivement, l'âge n'aurait pas changé grand-chose et peut-être qu'on aurait vu voir un petit peu plus Alexis Lafrenière. Chapeau aux espoirs du Canadien. Ryan Poehling a été très bon, même si malheureusement, 2 des 3 buts de la Finlande en finale ont été marqués sur des mises en jeu qu'il a perdues. Il a quand même été choisi joueur par excellence par les médias et il a connu tout un tournoi. Alexander Romanov de la Russie, formidable. Moi, c'est la révélation pour moi de ce tournoi-là. Jamais je pensais qu'il pouvait être aussi bon que ça. Il a été très bon. Jesse Ilonen de la Finlande a été très bon aussi. D'ailleurs, il y a un but dans le match de demi-finale et dans le match de la finale. Caden Primo, le gardien qui appartient aux Canadiens pour les Américains, très solide, était très bon. Josh Brook avec le Canada, Il était bon, mais il était moyen des fois aussi, on l'a moins vu. Les deux déceptions du côté des espoirs du Canadien, ça a peut-être été Nick Suzuki qui n'a pas marqué, puis Jacob Olofsson, qu'on n'a pas vu beaucoup avec cette équipe suédoise qui a terminé cinquième. J'ai écrit vendredi un texte sur le RDS.ca. Je me suis assuré d'en envoyer une copie à Hockey Canada. J'ose croire qu'ils n'ont pas besoin de Stéphane Leroux pour prendre leur décision. Mais Moses, que je ne vois pas d'autres candidats qu'André Tourigny pour diriger l'équipe Canada Junior 2020. Pourquoi? Pas parce que c'est un francophone. Parce que c'est un gars qui, premièrement, a mené l'équipe canadienne des moins de 18 ans à la médaille d'or au tournoi Linka-Gretzky l'été passé. Ça, c'est la première raison, je pense, pour laquelle ça devrait être lui. Il y a des joueurs de cette équipe-là là, qui vont frapper à la porte d'équipe Canada Junior l'an prochain, dont évidemment Alexis Lafrenière, qui était le capitaine cet été. Mais surtout parce qu'il a déjà été adjoint trois fois de ce programme-là, en 2010, 2011 et en 2013. Surtout parce que depuis deux ans, il dirige en Ontario, fait qu'il connaît très bien les joueurs de la Ligue de l'Ontario. Et surtout aussi parce qu'il a dirigé les Moussets d'Halifax la saison précédente, en 2016-2017. Donc, il sait à peu près le groupe de joueurs du Québec de 19 ans qui pourraient l'aider l'an prochain, il les connaît. Et il pourrait retrouver Jared McIsaac, qui était là avec l'équipe canadienne cette année. Il pourrait retrouver Benoît-Olivier Groulx, Raphaël Lavoie, qui l'a dirigé avec les Moussets d'Halifax il y a deux ans. En plus, depuis sa dernière participation au programme des moins de 20 ans en 2013, il est allé chercher trois ans d'expérience dans la Ligue nationale. Il parle français, il parle anglais. Que c'est que vous voulez de plus, là? Sérieux, là, je pense que c'est le candidat. Je ne dis pas qu'il n'en rencontrera pas d'autres. J'ai parlé avec André durant la période des Fêtes. Ça l'intéresse. Hockey Canada est au courant. Alors, j'aime à penser que l'an prochain, en 2020, l'équipe canadienne junior va être dirigée par André Tourigny. Et petite parenthèse comme ça, puis je l'ai mis dans mon texte, c'est pas une question d'être chauvin, mais les trois dernières médailles gagnées par le Canada au championnat du monde junior, c'était des entraîneurs québécois qui étaient là. Benoît Groulx en 2015, Dominique Ducharme, la médaille d'argent en 2017 et la médaille d'or en 2018. Alors que quand on a utilisé des gars de l'Ouest, ça n'a pas bien été. C'est une coïncidence probablement, mais je le dis quand même. Fin de la parenthèse du championnat du monde de hockey junior. J'espère que ça vous a plu, nos reportages cette année. Les capsules ont roulé en masse. Les capsules de Jasmin Leroux ont vraiment fonctionné. On les a vues sur les médias sociaux, dans nos entraques. Ça a été bien, bien fun, ce projet-là. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a mis fin hier à sa période de transaction. Avant de vous résumer tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'équipes qui se sont rangées dans le camp des vendeurs, là, Drummondville, Rouyn-Noranda, Baie-Comeau, Halifax, Rimouski, Cap-Breton, Moncton, je veux juste vous faire un petit bilan. Il y a 87 joueurs qui ont été échangés. 83 en fait, parce que comme je le disais, il y en a 4 qui ont été échangés deux fois. Il y a 100 choix de repêchage qui ont été échangés également depuis le 16 décembre jusqu'à hier. Et là, on se retrouve avec 7 formations qui pensent qu'ils ont une chance de gagner. Les 7 équipes présentement là, qui sont dans le top 8, en fait, même Cap-Breton est 8e, mais a été acheteur quand même pendant la période de transaction. Mais l'équipe numéro 1 de la Ligue, depuis le début de la saison, c'est les Huskies de Rouyn-Noranda. 32 victoires, 7 défaites, 1 revers en tir de barrage, 65 points, c'est un rendement de 800. Ils ont 18 victoires, 2 défaites à la maison. C'est l'équipe qui a la meilleure défensive de la Ligue depuis le début de la saison. Et c'est l'équipe qui est allée chercher le joueur clé de la période de transaction, Noah Dobson, qui était le défenseur du Titan d'Acadie Batters. Pour en parler, on a Mario Pouliot en ligne avec nous. Salut Mario.
Salut Stéphane.
Écoute Mario, je disais il y a quelques instants, là, pendant que tu attendais, vous êtes allé chercher le gars clé de cette période de transaction-là. C'est une transaction qui a été complexe, qui n'a pas été facile à faire, mais toi, tu connaissais bien l'individu, tu l'as dirigé à Batters l'an passé. De retrouver Noah Dobson avec toi, là, ça doit vraiment, vraiment te faire plaisir puis mettre tout le monde en confiance chez les Huskies.
Non, c'est définitif, dans le sens que nous, on avait réellement là, établi, suite à la première affaire, pourquoi on est allé dans cette direction-là, c'est que le rendement de nos joueurs depuis le début de l'année, leur éthique de travail, leur performance a dicté d'aller dans cette direction-là. Et puis, pour nous, c'était clair qu'on voulait améliorer notre brigade défensive. Puis, c'était clair que Noah Dobson était le joueur qu'on recherchait parce que, d'un, je l'ai connu les deux années que je l'ai dirigé avec le Titan d'Acadie Batters. On sait que l'année passée, on a gagné la Coupe Memorial. Et puis, Noah a été un élément clé. À 17 ans, il avait l'air d'un gars de 19 ans sur la patinoire. Et puis, il a déjà passé par là. Il a accumulé énormément de bagages depuis qu'il s'est joint à la Ligue junior majeure du Québec. Donc, pour nous, c'était un incontournable d'avoir Noah avec nous.
Mario, quand la période de transaction a commencé, puis je me souviens d'avoir vu Noah au camp de sélection d'Équipe Canada, on devait être environ là, le 10 décembre, quand je lui ai parlé, il avait fait une liste de 5 équipes dans laquelle il souhaitait être échangé, et les Huskies ne faisaient pas partie de cette liste-là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, ça a changé? T'as-tu eu à avoir des discussions avec l'agent, avec la famille, avec lui directement, pour peut-être lui dire que Rouyn-Noranda, ce serait une belle place pour lui pour la deuxième moitié de saison?
Ben, tu sais, j'avais été au courant de sa liste d'équipe et puis tout ça. Et puis, en bout de ligne, on a fait ce qu'on avait à faire. Pour moi, l'important, c'était de pouvoir l'emmener ici, de faire une transaction. Et puis, à partir de là, quand on a pu s'entendre avec le Titan, dans cette transaction-là, c'était juste après là, de s'assurer que tout serait correct. Et puis, Noah me connaît très, très bien. Je le connais très bien. On a une bonne relation. Et puis, pour lui, comme joueur de hockey, avoir l'opportunité là, de performer avec une équipe de continuer à se développer, c'est une opportunité là, qui est intéressante pour lui aussi.
Alors, Noah va jouer son premier match avec vous à Moncton vendredi, c'est ça?
Oui, exactement. Oui, la transaction étant officialisée hier, on pouvait pas l'avoir avec nous pour aucun de nos matchs suite à la défaite d'Équipe Canada. Donc, il a besoin de repos parce qu'on regarde, il y a eu le camp d'Équipe Canada, il y a eu les combines après la Coupe Memorial, il y a eu sa sélection, le camp des Islanders. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de hockey pour lui dans la dernière année. Donc, ça va être un repos là, qui va lui faire du bien avant d'entreprendre là, la deuxième partie de la saison avec nous.
Fait que premier match à Rouyn-Noranda pour lui, jeudi le 17 janvier, c'est ça?
Oui, contre les Foreurs.
Contre les Foreurs de Val-d'Or. Je pense qu'on va aller faire un tour en Abitibi, Mario. Dis-moi maintenant, il n'y a pas eu que Noah Dobson qui s'est ajouté au Husky. Il y a Joel Teasdale et Louis-Philippe Côté aussi. Parle-moi de ces deux acquisitions-là. Teasdale, c'est un gars qui est en demande aussi. Et c'est un gars qui a participé aux deux dernières finales de la LHJMQ.
Oui, exactement. Je pense que pour nous autres, là, les trois additions qu'on a eues, qu'on a ajoutées, la première chose, il fallait s'assurer d'emmener des individus de première classe là, qui fitteraient bien avec notre groupe de joueurs. Et puis, les trois individus, que ce soit Dobson, Teasdale et Côté, vont être un fit parfait chez nous, côté personnalité. La deuxième étape, c'est définitif que Joel Teasdale, avec ses possiblement un des gars les plus complets sur 200 pieds, 51 matchs d'expérience dans les séries, un gars qui est multidimensionnel, peut jouer toutes les situations, possiblement le meilleur attaquant devant le filet en attaque à 5. Et puis, c'est un gars qui a été élevé dans la cour de l'Armada de Blainville. Et puis, c'est la similitude avec les Huskies et puis l'Armada se rapproche énormément. Donc, au niveau de la culture aussi, ça, c'est une chose qui nous intéressait énormément dans son cas.
Écoute, Mario, là, je vais vraiment te poser la question peut-être à 2000 $. Est-ce que les Huskies, en ce moment, forment une meilleure équipe que le Titan d'Acadie Batters le 7 janvier l'année passée au même moment?
Pour moi, je te dirais que définitivement, je te dirais que j'aurais tendance à dire oui. Dans le sens que devant le filet, on a une profondeur, on a une très, très bonne profondeur avec le duo Harvey et Aimon. Notre groupe de défenseurs, on retrouve Dobson. Donc, Dobson, là, il y a un an de plus d'expérience et puis il a déjà passé par là, mais avec l'ajout là, des cinq gars alentour de lui, je te dirais qu'on a j'adore la profondeur qu'on a là. C'est définitif. Puis à l'attaque, j'ai définitivement plus là de profondeur qu'on avait à Batter. Ça, c'est clair au niveau là, de l'expérience aussi.
Donc, les Huskies sont en bonne position là, pour aller jusqu'au bout. On sait que ce ne sera pas facile. Il y a d'autres bonnes équipes. Là, mais dis-moi, peut-être en terminant, un mot sur Zachary Lauzon. Qu'est-ce qui arrive exactement dans son dossier? Quand on s'était parlé, je pense à la mi-novembre, tu me disais il va peut-être être sur patin en décembre. Mais là, finalement, moi, j'avais même entendu des rumeurs qu'il pourrait être échangé. Qu'est-ce qui arrive dans son cas, finalement? Est-ce qu'il va jouer au hockey?
Non, dans le cas Zachary, il était supposé de recommencer les pratiques avec contact dans la semaine du 11, 10 et 11 décembre. Et puis, finalement, quand on s'est assis avec, puis tu sais, de ce côté-là, quand on s'est assis avec Zachary, pour moi, c'était clair, il y a deux choses différentes. Il y a le côté humain, puis il y a le côté business du hockey. Puis pour moi, j'ai toujours été clair avec Zach que c'était le côté humain. Puis il me disait qu'à ce moment-là, qu'il était peut-être prêt à 85% dans son cheminement. Zachary Lauzon, ça fait presque un an qu'il est blessé. Et puis, il s'est donné un an pour revenir en parfaite santé. Donc, je lui ai dit qu'il était pas, qu'il se moque pas avec ces choses-là. L'important, c'était sa santé à lui. On était en contact avec M. Ruel, son agent. Et puis, à partir de là, on a décidé qu'on le garderait avec nous. Il va être comme, il pourra pas jouer. Il va continuer à faire sa remise en forme. Quoique là, durant le temps des fêtes, il a été malade, donc ça l'a ralenti tout ça. Mais il reste qu'il va être, il a été réclamé comme un husky. Il a gagné avec les huskies, puis il va être là, comme un genre d'ambassadeur avec nous, puis il va pratiquer avec nous là, pour le reste de la saison.
Bon, ben écoute, Mario, félicitations pour le travail accompli. Bonne chance pour la deuxième moitié de saison. Je suis convaincu qu'on va beaucoup entendre parler des Huskies en deuxième moitié de saison. Une des meilleures équipes hockey junior canadien cette année. On se revoit bientôt, Mario.
Merci, Stéphane.
Salut. Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda. Il n'y a pas que les Huskies qui ont été actifs, évidemment. Les Voltigeurs de Drummondville ont été cherchés... De très bonnes prises aussi. Je pense à Pierre-Olivier Joseph, le défenseur de Charlottetown. Michal Hivan, un autre défenseur qui était avec le Titan de Caddy Batters, qui a gagné l'an dernier. On est allé chercher le gardien Anthony Morone, qui était à Québec depuis le début de la saison. Et Rémi Engelhardt, un autre qui a joué en finale avec les Huskies au cours des deux dernières années. On a aussi fait l'acquisition, et ça on va mettre un point d'interrogation, des droits sur l'attaquant Shane Bowers qui joue présentement à l'Université de Boston qu'on a vu avec l'équipe Canada Junior. Pour l'instant, rien n'indique qu'il pourrait se rapporter aux Voltigeurs, mais sait-on jamais. Alors, ces droits appartiennent aux Voltigeurs. Si jamais les Voltigeurs parviennent à convaincre Bowers de se joindre à la Ligue junior majeure du Québec, lui qui a déjà appartenu au Cap-Breton, qui a déjà appartenu aux Sea Dogs de Saint-Jean, ce serait évidemment toute une prise. L'équipe la plus active dans celles qui ont décidé d'être du côté des acheteurs, c'est assurément le Drakkar de Baie-Comeau. On est allé chercher trois gardiens de but. Luca Fitzpatrick à Shawinigan pour être un bon second. On avait été chercher... Derek Baribeau à Québec pour être le numéro 1. Il s'est blessé vendredi soir à Victoriaville et comme la blessure est sérieuse, on n'a pas eu le choix d'aller chercher un autre gardien samedi, Alex Dorio des Sea Dogs de Saint-Jean, qui selon moi est une excellente prise. On est allé chercher le défenseur Pascal Corbeil du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. On est allé chercher aussi Mathieu Charlebois à Victoriaville, Keenan McIsaac à Batters. Donc trois défenseurs se sont ajoutés à la ligne bleue du Drakkar. Et on a ajouté également de la profondeur à l'attaque avec Thomas Etier, un autre attaquant de l'Armada de Blainville-Boisbriand, et Ethan Crossman, un autre attaquant du Titan d'Acadie Batters. Donc ça veut dire qu'on est allé chercher beaucoup de joueurs qui ont participé en finale l'an dernier. Des gars de Batters, des gars de Boisbriand, ils étaient très en demande, autant à Rouyn-Noranda qu'à Baie-Comeau. Halifax a été plus tranquille, a ajouté Maxime Trépanier, Keith Getson, Alexis Sansfaçon. Ça, c'est les quatre équipes qui, en principe, si la logique est respectée, devraient se ramasser dans le carré d'as. Drummondville, Rouyn-Noranda, Baie-Comeau et Halifax. Mais il y a d'autres équipes qui ont ajouté également dans cette période de transaction. Rimouski a ajouté D'Artagnan Joly, Jeffrey Durocher, deux attaquants pour venir appuyer Alexis Lafrenière. Et on a ajouté également le gardien Tristan Bérubé. Le Cap-Breton vise pas cette année, vise plus l'an prochain, mais il est quand même allé chercher Nathan Larose, Sean Boudria, Derek Gentile, Robbie Sandilands. Alors, on veut quand même Cap-Breton essayer de causer une surprise. Et les Wildcats de Moncton ont ajouté Charles-Antoine Giguère, Christian Huntley et Alexis Antelainen. Antelainen remplace le défenseur suisse Simon Lecoultre qui a quitté les Wildcats pour être opéré. Une convalescence là, qui va durer à peu près 6 mois. Veut être prêt pour jouer l'an prochain comme joueur professionnel en France. Alors, ça fait un peu le tour là, des équipes qui ont été les plus actives dans celles qui ont acheté. Les Remparts de Québec ont fait une multitude d'échanges. J'ai même vu passer sur Twitter aujourd'hui, si t'es encore un Rempart aujourd'hui, t'es chanceux parce qu'on a presque changé le club au complet. Patrick Roy a été très actif, a remodelé un peu l'image de l'équipe pour avoir un peu plus de genre de joueurs qu'il aimait. Et il y a des équipes qui ont été vraiment actives pour vendre. On pense à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça va être difficile en deuxième moitié de saison. Même chose pour Batters. On a échangé beaucoup de joueurs. Les Sea Dogs de Saint-Jean ont laissé partir des vétérans aussi. les Cataractes de Shawinigan. Alors, ces équipes-là vont regarder plus vers l'avenir. Deux autres petites nouvelles en ce qui a trait à la Ligue junior majeure du Québec avant d'y aller avec notre segment sur le Rocket de Laval. D'abord, ce matin, on a appris le congédiement à Moncton de l'entraîneur-chef Darren Rumble, qui était à sa sixième, qui en était à sa sixième saison avec les Wildcats. 180 victoires, 197 défaites en 6 saisons à Moncton. L'équipe, en ce moment, est sixième au classement général sur 18 équipes. Tu te dis, ça va pas si mal que ça. Mais il faut être honnête, depuis le 20 novembre, les Wildcats n'ont que 5 victoires à leurs 17 derniers matchs. Et ils ont échappé des matchs dans la période des fêtes contre les Sea Dogs de Saint-John, contre le Titan d'Acadie Batters. Et quand tu te bats pour terminer au premier rang et que tu échappes ces matchs-là contre les équipes plus faibles, ben ça n'en prend pas gros des fois pour que la patience du propriétaire Robert Irving vienne à bout. Et Darren Rumble a payé le prix ce matin, donc il a été remercié. Pour l'instant, c'est l'entraîneur adjoint Joshua Ebditch qui va être à la barre de l'équipe. Et là, ben, il y a des candidats qui vont se pointer, évidemment, du côté de Moncton. Il y a un nom qui est sorti assez rapidement, John Torchetti, qui a déjà dirigé les Wildcats, qui a déjà dirigé dans la Ligue nationale également, fait partie des noms. Même chose pour John Chabot, qui a déjà été lui aussi dans l'entourage des Wildcats de Moncton. Alors, est-ce qu'on va se tourner vers eux? Chose certaine, les Wildcats, souvenez-vous, avaient posé leur candidature pour recevoir la Coupe Memorial cette année. Ils évoluent dans un tout nouvel amphithéâtre, le Centre Avenir à Moncton, un amphithéâtre ultra-moderne. Et M. Irving a décidé que le moment était venu d'effectuer un changement. Dernière petite nouvelle, à la JMQ, on a appris également en fin de semaine que les Olympiques de Gatineau vont retirer le chandail de Claude Giroux le 20 février prochain. C'est un honneur évidemment pleinement mérité pour Claude Giroux, qui a été la grande étoile de cette équipe-là de 2005 à 2008, conduisant les Olympiques de Gatineau à la conquête de la Coupe du Président en 2008. Et par la suite à la Coupe Memorial. Ça avait moins bien été à la Coupe Memorial, mais il n'en demeure pas moins que Claude Giroux a été un grand joueur. 3 saisons de 100 points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à 17, 18 et 19 ans. Du hockey junior, on s'en va à la Ligue américaine. On va parler du Rocket de Laval. Et pour ce faire, on accueille notre collaborateur régulier, chroniqueur à RDS.ca et analyste des matchs au 91.9, Raphaël Doucet. Bonne année, Raphaël. Ça me fait plaisir de te parler en 2019.
Bonne année, mon Stéphane.
Écoute, j'ai suivi le Rocket un petit peu plus à distance depuis les dernières semaines, quoiqu'on avait quand même présenté à RDS le match du 22 décembre contre les Marlies de Toronto. Moi, je me souviens qu'au 28 novembre, on se disait, le Rocket entreprend une séquence là, cruciale. 16 matchs sur 21, 16 des 21 prochains à la maison. Là, on est rendu, il y en a 13 de ces 16 matchs-là qui sont passés. Le Rocket s'en tire quand même bien. On est allé chercher 18 points sur une possibilité de 26 dans ces matchs-là à domicile. C'est ce qui permet au Rocket présentement là, de se maintenir tout près là, des équipes qu'il poursuit pour la course aux séries.
Oui, ça va être important pour le Rocket de jouer aussi bien à l'extérieur de la maison qu'à domicile, parce que, bon, évidemment qu'il va avoir un retour du balancier. Hein. 15 matchs à domicile d'ici la fin de la saison contre 24 sur la route. Et puis sur la route, présentement, on a seulement 4 victoires sur 14. Donc, il va falloir changer les choses loin de la place belle. Mais comme tu l'as dit, là, c'est une excellente séquence depuis 13 matchs à Laval, là, 7, 2 et 4. Ça, c'est une efficacité de 692. Et puis, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Stéphane, quand on avait encerclé un petit peu là, cette fameuse séquence de 16 sur 21 là, qui va se prolonger jusqu'au 20 janvier, parce que là, le Rocket va partir pour 2 matchs à Winnipeg avant de revenir la semaine prochaine pour 3 matchs à la maison. Ben, tu sais, on avait encerclé cette séquence-là de 16 sur 21 et ça prendrait une efficacité d'environ 625 pour espérer une place en série. Là, on est à 692 présentement. Donc, ça va très bien. Et la raison de ces succès, ben, c'est d'abord et avant tout défensif, mais quand même, au cours des dernières semaines, on a assisté quand même à un certain réveil de l'attaque.
Ouais, puis quand tu regardes ça aussi, Laval a 11 victoires à la maison cette année. Il y en avait eu 10 dans toute la saison l'année passée à la place Belle de Laval. Alors, on commence finalement là, à s'approprier un petit peu plus ce domicile qui est merveilleux pour une formation de la Ligue américaine. Écoute, Connor Lacouvé, moi, je l'ai vu passer un match plus tôt cette saison avec Utica. Il était là comme adjoint. On ne savait pas trop c'était qui. Il n'avait pas joué. Là, il se présente avec le Rocket un peu par mesure d'urgence. 3 victoires en 3 matchs, puis il fait du bon travail.
Oui, il fait du bon travail. Et puis, 2 de ces 3 victoires-là, quand même, contre Charlotte et contre Rochester, 2 des puissances de l'Association Est. Et ces 3 victoires, Stéphane, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Il y a quand même une efficacité de 932 depuis qu'il a joint le Rocket. Et puis, devant le filet, Très bonne technique. C'est quand même un gardien de but assez trapu. T'sais. Il est 6-1, 200, mais il a l'air plus gros que ça devant son filet. Une bonne technique, des déplacements explosifs. T'sais, si on disait l'an dernier, quand Michael McNeven est arrivé avec le Rocket, qui nous faisait un petit peu penser à Jonathan Quick, là, c'est sûr que McNeven a maigri de 30 livres depuis, mais Connor Lacouvé, lui, me fait penser devant son filet à un gardien de but là, avec un gabarit similaire à Jonathan Quick et avec des déplacements qui sont très athlétiques, très explosifs. Il a été très bon. Et puis en entrevue, je sais pas si tu l'as vu passer, mais c'est quelqu'un de très rafraîchissant, très naturel. Lui, il a même une certaine innocence. Il est arrivé là, pas vraiment de pression sur un contrat d'essai professionnel. Il essaie d'en profiter au maximum. Il a quand même une certaine expérience parce qu'il a passé les 4 dernières années dans la NCAA, dont 3 avec Boston University, un très bon programme. Mais là, il arrive avec le Rocket. Et puis, il a carrément déclassé là, Étienne Marcoux. On l'a renvoyé dans la Ligue de la Côte-Est. On a gardé Connor Lacouvé malgré un contrat d'essai professionnel. Et il est vraiment très bon, le 3-3.
C'est bien beau Connor Lacouvé, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Charlie Lindgren. Qu'est-ce qu'il en est de sa situation à lui?
Il recommence à s'entraîner de plus en plus là, de façon régulière avec ses coéquipiers. Et puis, le mot là, du côté du Rocket, c'est qu'on s'attend à un retour au jeu pour Charlie Lindgren en fin de semaine là, lors du voyage au Manitoba. Donc, le Rocket joue jeudi soir à Winnipeg, même chose samedi soir. Donc, on peut s'attendre à voir Charlie Lindgren dans un de ces deux matchs-là. Mais la question que je me pose, c'est qu'en son absence, Michael McNeven a été très bon. Même chose pour Connor Lacouvé. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on garde quand même dans le sillon du Rocket Connor Lacouvé. Jusqu'à temps qu'on voit que Charlie Lindgren est bel et bien remis à 100%. Et je m'attends également à un retour en force de Charlie Lindgren, parce que sinon, en son absence, Michael McNeven a prouvé qu'il était capable d'être le numéro 1.
Oui, et l'infirmerie, il y a quand même d'autres clients aussi là, qui n'ont pas joué dans les derniers matchs. Michael McCarron, Noah Jolson, Hunter Shinkerock.
Ouais.
Au moins, le Rocket devrait avoir dans les prochaines heures David Schlemko.
Ouais, exactement. Je pense pas qu'on va le réclamer. Donc, Schlemko, là, après Carl Osner, va se diriger du côté du Rocket de Laval. Et puis, bon, ben, on peut dire un petit peu les mêmes choses qu'à l'endroit de Carl Osner. Hein. C'est-à-dire, s'il est pas vraiment dominant dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, devrait être quand même un bon défenseur pour le Rocket de Laval. Et pour Schlemko, ce qui pourrait être utile à Joël Bouchard, c'est qu'il peut jouer autant à gauche qu'à droite. Va quand même aller donner de très bonnes minutes là, devant le gardien de but du Rocket, peu importe qui il va être.
Mais est-ce qu'on pense voir McCarron et Jolson dans ce voyage-là à Winnipeg?
Ça, c'est une très bonne question. Écoute, on s'attendait d'abord, il faut dire que Noah Jolson s'est blessé le 27 décembre à Belleville. Ça semblait anodin, mais là, ça semble plus sérieux que prévu parce qu'il a raté les 5 derniers matchs du Rocket. McCarron s'est blessé à l'entraînement mercredi dernier, a raté les 3 derniers matchs. Et Hunter Shinkerock, même chose, blessure à l'entraînement jeudi. Donc, il n'a pas joué du tout du week-end contre Rochester. Écoute, présentement, je ne m'attends pas à voir ni Jolson, ni McCarron, ni Shinkerock faire le voyage à Winnipeg. Mais dans le hockey, tu le sais, autant que moi, ça peut changer.
OK, un mot en terminant. Je voulais qu'on en parle puisque dans la pause de Noël, on n'a pas eu de balado-diffusion. Mais Alex Belzile sera le seul représentant là, du Rocket au match des étoiles de la Ligue américaine. Il est le premier compteur de l'équipe. C'est un bel accomplissement pour lui, là.
Oui, c'est vraiment un bel accomplissement. Et puis, écoute, je pense qu'il en donne vraiment plus que prévu au Rocket de Laval. Faut dire qu'Alex Belzile, là, l'an dernier, c'était sa première saison complète dans la Ligue américaine à 26 ans. Avant, là, c'était d'abord et avant tout un gars de la Ligue de la Côte-Est. Et puis, l'an dernier, à San Antonio, 34 points. Il est déjà à quelques points là, de son sommet personnel dans la Ligue américaine. Et puis, depuis le début de la saison, il a surtout joué à l'aile droite du premier trio. Mais tu vois, en fin de semaine, on l'a retrouvé à l'aile gauche du deuxième trio. Et peu importe où tu l'utilises et quand tu l'utilises, ben Alex Belzile, c'est un effort constant. Et non seulement il produit offensivement, Stéphane, mais en plus, tu l'as vu, là, il dérange, il est fatigant. Donc, c'est vraiment un joueur là, que Joël Bouchard adore, utiliser à toutes les sauces. Et puis quand on regarde un petit peu dans la Ligue nationale là, des joueurs qui se développent un petit peu sur le tard, bien, dans la Ligue américaine, Alex Belzile est un bel exemple.
Bon, ben écoute, merci beaucoup. Je vais te souhaiter un bon voyage à l'endroit où certains Pierre Lalonde disaient que les nuits étaient longues à Winnipeg. Vous êtes là quand même quoi? C'est pas deux matchs en deux jours, là, c'est deux matchs en trois jours. Et c'est le pèlerinage. Ouais. Faut peut-être expliquer aux gens, là, c'est la seule équipe de l'Association de l'Ouest que le Rocket affronte durant la saison. Parce qu'on veut maintenir une rivalité là, pan-canadienne. Alors, les équipes de Toronto et de Belleville jouent également là, contre Winnipeg.
Oui. Exactement. Non, c'est un bon point que tu soulèves parce que souvent les gens nous demandent comment ça on voit pas à Laval des équipes de San Jose, Ontario ou peu importe. ben c'est ça. L'Est joue contre l'Est dans la Ligue américaine et l'Ouest joue contre l'Ouest, un peu là, comme il y a quelques années dans le baseball majeur.
Effectivement. Et si l'an dernier, les quatre matchs contre le Moose, c'était difficile parce que l'équipe de Pascal Vincent était une des puissances de la Ligue, mais cette année, ouais, les quatre matchs contre le Moose sont à la portée là, du Rocket. Le Moose a une moins bonne saison cette année, est au dernier rang de sa section. Alors, c'est une belle occasion là, pour l'équipe de Joël Bouchard d'aller chercher des points contre cette formation-là.
Oui, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parallèles à faire entre le Moose du Manitoba et les Marlies de Toronto, c'est-à-dire deux puissances l'an dernier qui connaissent une saison là, quand même en dentis et deux entraîneurs-chefs qui cognaient à la porte de la Ligue nationale. Et j'espère pour Sheldon Keefe et Pascal Vincent que cette mauvaise saison ne nuiront pas à leur chance d'éventuellement devenir entraîneur-chef dans la Ligue nationale parce que cet été là et au cours des derniers mois, leur nom commençait à circuler de plus en plus.
Merci beaucoup. On va sûrement se reparler la semaine prochaine pour faire le bilan de ce match, de ces deux matchs-là à Winnipeg. Et en ce qui concerne RDS, on sera de retour le 16 janvier pour le match mercredi le 16, alors que les Sénateurs de Belleville seront de passage à la Place Belle. Merci beaucoup à nouveau, Raphaël.
Merci à toi. Bonne année. Et puis encore une fois, très bon travail au championnat mondial junior. Une tradition que tu sais maintenir à flot.
Merci beaucoup. C'est gentil de le souligner. Merci. Au revoir.
Merci Stéphane.
Voilà, donc Raphaël Doucet, collaborateur au RDS.ca et analyste des matchs à la radio du Rocket de Laval au 91,9. Raphaël qui fait tous les voyages avec l'équipe. Donc le Rocket s'en va pour deux matchs au Manitoba et revient par la suite pour trois matchs au centre à la Place Belle la semaine prochaine. Belleville et Cleveland deux fois. Et c'est ça qui va mettre un terme à cette séquence là, dont on parlait de 16 matchs sur 21. Parce qu'à partir du 21 janvier jusqu'au 20 février, il y a seulement un match à la maison contre Belleville et il y aura 11 matchs à l'extérieur. Alors, c'est là beaucoup que ça va jouer la saison du Rocket. Si on veut participer aux séries éliminatoires, il va falloir sortir de cette séquence-là avec des points au classement. Avant de se laisser, ben la saison a repris dans la Ligue Midget 3 en fin de semaine. De quoi on parle depuis le début de la saison dans la Ligue Midget 3? Ben, des Chevaliers de Lévis. Ils sont allés chercher deux autres victoires en fin de semaine. Ils sont rendus à 32 victoires de suite depuis le début de la saison. Une fiche de 32-0. 27 de ces 32 matchs-là ont été gagnés en temps réglementaire. Ils sont évidemment premiers au classement général devant les cantonniers de Magog qui connaissent une bonne saison. Et là, en fin de semaine, pour essayer de prolonger cette séquence-là, écoute, il reste 10 matchs dans la saison régulière dans la Ligue Midget 3. On parle de saison de 42 matchs. On est 32-0 pour Lévis. Et on fait ça en plus... On a continué cette série de victoires-là, en plus, sans la présence de Samy Paré, qui a gradué avec les Tigres de Victoriaville durant la période des Fêtes. Je ne sais pas si on va y aller jusqu'au bout là, pour les Chevaliers. Ça va être difficile. En fin de semaine, deux matchs contre les Grenadiers de Châteauguay à la maison vendredi soir. Les Grenadiers sont 9e au classement général. Et samedi après-midi, on se rend à Jonquière pour affronter les Élites, qui, eux, sont 7e au classement général de la Ligue Midget 3. Donc, ce sont les deux rivaux en fin de semaine des Chevaliers de Lévis, Châteauguay et Jonquière. Et le vendredi suivant, ça, c'est le match qu'on attend là, dans la Ligue Midget 3, vendredi le 18 janvier, les cantonniers de Magog seront de passage à l'Aréna de Charny pour affronter les Chevaliers, les deux meilleures équipes qui vont se mesurer. Et les cantonniers, là, si la série de victoires n'est pas terminée, vont évidemment tout faire là, pour stopper les Chevaliers. 32 victoires, aucune défaite. On a accordé que 50 buts en 32 matchs depuis le début de la saison. C'est phénoménal. Bon, ben j'espère que ça a bien résumé notre actualité dans le monde du hockey amateur au cours de la dernière quinzaine, je dirais, parce qu'on ne s'était pas parlé depuis le 17 décembre. Ça fait quand même quoi, 3 semaines? Mais là, on va être là à chaque semaine. On sera de retour la semaine prochaine avec notre balado-diffusion sur la glace. Je tiens à remercier à nouveau nos collaborateurs, Raphaël Doucet, qui était avec nous pour nous parler du Rocket, Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies, qui était notre invité, Luc Dansereau à la technique. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se reparle la semaine prochaine.